Voilà, on commence à se connaître un petit peu mieux, hein. Enfin, au fur et à mesure que le week-end avance, on prend plus de liberté pour s'exprimer, pour voilà. Je vais essayer de pas être très long pour qu'on ait le temps d'échanger. Je trouve que les échanges sont souvent intéressants. Je rappelle que je donnerai l'intégralité de mes notes à Ellie, donc vous pourrez les avoir en plus des enregistrements, si vous voulez. Dans ces notes de cet après-midi, j'ai 4 pages écrites gros d'exposé et 8 pages d'annexes, dont je ne parlerai pas. Mais ça veut dire qu'il y a comme un petit dossier avec plein d'à côté qui sont abordés d'une manière, j'espère, utile. Je commence par une remarque qui va faire le lien entre ce matin et cet après-midi. Nous avons à Alès une pastorale qui réunit 25 pasteurs, rien que du secteur alésien. On est en Cévennes, hein. Voilà. Et lors de cette dernière pastorale, un sujet qui a émergé, c'est une pastorale où simplement on a la liberté d'échanger ce qu'il y a sur nos cœurs. Simplement, pas d'organiser des manifestations, de partager les uns les autres entre pasteurs. Et un sujet qui a été abordé, c'est la soif spirituelle et même un certain éveil spirituel chez les enfants. Disons que c'était intéressant d'entendre un pasteur, un autre, qui sans se concerter, on dit « Je suis étonné de voir des enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans exprimer une attente spirituelle que je n'aurais pas imaginée. » Bon, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit ce matin, hein. Déjà Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, a vécu une sorte d'éveil spirituel. Et je me souviens au début des années 2000, j'étais en Kabylie pour une mission, il y avait un réveil parmi les enfants. C'est-à-dire des enfants entre 10 et 14 ans qui passaient leur journée à chanter des cantiques ensemble. On ne pouvait plus les arrêter. Voilà. Et alors, on a parlé de ça entre pasteurs, évidemment c'était un encouragement, et on s'est dit, humblement, parce qu'on peut être pasteur et humble, hein, c'est même souhaitable, on s'est dit humblement, faisons tout pour ne pas être des obstacles sur le chemin de ces enfants, et apprenons d'eux. Alors, ça ne voulait pas dire, encore une fois, qu'ils allaient prêcher au micro tous les dimanches matins, hein, mais s'ils vivent un éveil spirituel, on peut apprendre d'eux quelque chose. Et il n'est pas exclu que les parents puissent apprendre quelque chose de leurs enfants, en tout cas quand les enfants font l'amour de la vérité, ou ont découvert quelque chose du registre de la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, si un réveil parmi les enfants, ben que leur place soit prête, qu'on ne soit pas un obstacle pour eux, et peut-être qu'on puisse apprendre d'eux des leçons que Dieu peut nous apprendre comme cela. Hein. Vous rappelez cette parole de Jésus, « Je te loue, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste une jolie parole ou est-ce que c'est vrai? Ça nous rend sensibles, en tout cas, à ce que peuvent vivre les enfants. Je voudrais, dans un premier temps, en quelques instants, parler de la maison. Je crois qu'on en avait parlé il y a un an et demi, quand on avait vécu ce week-end ensemble, là, du côté de Cré. Mais l'importance de la maison, c'est quelque chose dont on ne parlera jamais suffisamment. Parler des enfants, c'est forcément parler de la maison. Dans la Bible, la réalité de la maison revêt une très grande importance. D'abord le cœur, ensuite la maison. J'ai cité ce matin ce verset de Deutéronome 6, « Ces paroles que je te donne seront d'abord dans ton cœur, et puis tu en parleras dans ta maison, et puis quand tu iras en voyage. » Vous voyez, et donc entre le cœur et partout ailleurs, il y a la maison. Tu les écriras sur les poteaux de tes maisons, tu en parleras quand tu rentreras, quand tu sortiras. Donc, vraiment, il y a beaucoup de passages dans l'Écriture qui montrent que la maison est le lieu numéro un pour vivre tout ce qu'il y a à vivre avec le Seigneur. Lieu numéro 2, l'Église. Lieu numéro 3, partout ailleurs. Voilà. Et si on fait l'impasse sur la maison, la suite va être très aléatoire. Voilà. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, c'est dans la maison. En fait, le texte dit pas la chambre, le texte dit la pièce la plus reculée de la maison. Le cellier, peut-être. Sous l'escalier, la cave. Hein, voilà, c'est le mot veut dire ça. Alors, la cave, ça dépend si elle est humide ou pas. Mais bon, ça c'est un détail. Voilà. L'église ne se situe pas à côté de la maison. L'église est le prolongement de la maison. Et si je suis béni dans ma maison, l'église est bénie. Automatiquement, même si je ne dis rien. Mais si je perds dans ma maison, ou si je suis en obstruction, en réticence, en combat négatif dans ma maison, eh bien, c'est pas les cantiques et les prédications qui vont changer forcément quelque chose. Les clés sont dans les maisons. Voilà. Je pense que c'est important de se rappeler cela. L'écoute, le respect, l'obéissance, le pardon, où cela va-t-il s'apprendre, si ce n'est dans la maison? La responsabilité, la générosité, l'hospitalité, où cela va-t-il s'exercer, si ce n'est d'abord dans les maisons? Les dons qu'on a reçus de Dieu, le devoir partagé, le souci des autres, l'esprit de service, où cela va-t-il se développer si ce n'est dans la maison? Pas seulement dans la maison, mais d'abord dans la maison. Alors voilà, est-ce que nos maisons sont des lieux d'apprentissage, de recueillement, d'écoute, d'échange, de prière, d'hospitalité, de service, d'humiliation et de relèvement? De grâce, de bénédiction, je dirais, c'est vraiment le créneau essentiel. Alors, malheureusement, souvent, les maisons sont vides maintenant, du lundi au vendredi soir, et donc il se passe plus grand-chose que vite, vous voyez ce que je veux dire. C'est une difficulté, hein. À mon avis, c'est une difficulté. Je ne sais pas quelle est la réponse, mais c'est une difficulté. Et quand nos enfants vont à l'école, ils peuvent en revenir avec des mauvaises habitudes et nous pouvons leur dire, pas dans cette maison. Nos maisons doivent être sanctifiées. Voilà. Et vous imaginez l'enfant qui, dans la cour de l'école, peut dire oui, 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 là non. Où c'est qu'il a appris cela? Dans sa maison. Voilà. On pourrait en parler très longuement. Je voulais rappeler ces principes qui me paraissent vraiment élémentaires et qui conditionnent beaucoup de choses. Souvent, quand il y a un problème dans une église qu'on n'arrive pas à résoudre, la clé est dans la maison. Mais les maisons sont devenues, avant je n'y étais pas, hein, mais les maisons aujourd'hui sont des lieux considérés comme privés, ce qui est pas anormal, hein. Mais privé, ça veut dire personne n'a le droit de dire quoi que ce soit sur ce que je vis dans ma maison. Voilà. Même le Seigneur doit peut-être frapper à la porte et c'est pas sûr qu'on entende. Voilà. Alors, oui, gérons nos maisons, ça veut dire papa et la maman, s'il y a un papa ou il y a une maman, ou l'homme ou la femme seule dans sa maison et doit gérer sa maison, c'est pas aux autres de le faire, mais est-ce que nos maisons peuvent être transparentes, ou est-ce que nos maisons sont des lieux reclus, des lieux où le regard des autres n'est pas le bienvenu. Voilà. Pour les enfants, tout cela aura évidemment une grande importance. En deuxième lieu, je voulais rappeler qu'il y a des promesses dans la Bible concernant les enfants. Important, les promesses. Surtout quand les promesses se situent dans le cadre d'une alliance. Quand c'est juste des promesses comme ça, c'est facile de faire des promesses, hein. Mais dans l'Écriture, dans la Bible d'ailleurs est un texte d'alliance. La Bible est un texte d'alliance par lequel Dieu se lie à nous, en tout cas à son peuple. Voilà. Et dans ce cadre-là, il y a des commandements et il y a des promesses. Et donc, des promesses dans le cadre d'une alliance revêtent une très grande importance, parce que les promesses dessinent un avenir. D'ailleurs, c'est une des raisons du désarroi que nous pouvons constater dans la société aujourd'hui. Hein, l'anxiété liée au dérèglement climatique. Hein. Hein, c'est pas le sujet, hein, mais on pourrait en parler aussi longtemps, vous voyez. L'anxiété liée au climat, au dérèglement climatique. Les jeunes gens, les jeunes femmes qui veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils disent on sait pas ce qui va se passer. Vous voyez, ils ont quitté l'alliance, ils ont quitté le cadre de l'alliance. Non seulement ils ont quitté l'alliance de rédemption, mais même l'alliance créationnelle. L'alliance qui fait que Dieu tient toutes choses dans ses mains, fait lever le soleil tous les matins, etc. Eh bien, quand on sort d'une alliance, évidemment on peut avoir peur, hein, c'est normal. Qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui dure? Qu'est-ce qui garantit quoi que ce soit? L'ONU? L'Union européenne? Voilà. On peut trembler, hein, c'est normal qu'on tremble. Donc vous voyez l'importance d'une alliance. Et nos enfants sont hypersensibles à cela. Ils sentent le désarroi qui colore les discours qu'on entend un peu partout, à l'école bien sûr, mais aussi sur les réseaux sociaux pour ceux qui y sont. Enfin, ça, on est imprégné de cela. Voilà. Et donc l'Église n'est pas un lieu retiré, mais c'est un l'Église. D'abord, c'est pas un lieu, hein, c'est un peuple d'alliance. Voilà. Ça fait toute la différence. Peut-être que le climat change, peut-être qu'il change pas, je n'en sais rien. Hein. À mon avis, on a très peu de recul. Mais en tout cas, qui change ou qui change pas, le vivre comme des enfants de l'Alliance, c'est tout à fait autre chose que de le vivre sans assurance du tout. En plus, j'entends encore hier parler des animaux humains et des animaux non humains. Voilà. Donc nous, on est les animaux humains. Donc on est humain, ils n'ont pas enlevé le mot humain quand même. Enfin, on est d'abord des animaux, vous voyez, comme les autres animaux. Voilà. Et donc ça c'est quand même bafouer une réalité d'alliance. Dieu crée une alliance aussi avec les animaux, hein, avec Noé, mais il y a d'autres alliances qui sont pour la descendance d'Abraham, qui ne sont pas pour les animaux. Et donc vous voyez, en s'émancipant du cadre dans lequel Dieu a voulu que nous grandissions, on crée des situations de désarroi qui génèrent des comportements pathologiques, de détresse, de violence, de démobilisation. Par exemple, je pense à une jeune femme, on parle de dénatalité, hein, une jeune femme chinoise qui dit « Je n'ai pas d'énergie pour avoir des enfants, je veux profiter de ma vie. » Vous voyez le projet de vie quand même, hein ?« Je n'ai pas d'énergie pour élever des enfants, je veux profiter de ma vie. » Voilà, c'est vraiment un discours d'une personne qui n'a pas d'espérance et qui vit en dehors de l'alliance dans laquelle nous devons trouver notre place avec le maximum d'assurance face à tous les imprévus qui peuvent surgir à tout moment. Voilà. Les enfants sont très sensibles à cela. Je pense même dans le sein de sa maman, un enfant, il sent dans quel cadre on va l'accueillir et dans quel cadre il va grandir. Donc, pour nous, chrétiens, il y a des promesses concernant nos enfants. Pas les enfants en général, nos enfants. Et ces promesses, il importe de les tenir fermement dans nos mains. Donc, je rappelle une des promesses primordiales que Dieu donne à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, sois intègre, j'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. » Ça, c'est un cadre. Hein? Ça, c'est un cadre. C'est une perspective. C'est un horizon. C'est une relation. Voilà. J'établis mon alliance entre moi et toi, dit Dieu, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance éternelle. Donc voilà, partir dans la vie avec telle promesse, enseigner à nos enfants telle promesse, avoir ça dans notre regard, dans notre attitude, notre manière de vivre la vie de tous les jours, eh bien, ça peut changer, ça doit changer, je pense, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dans le cadre de l'alliance de Dieu, comme vous l'avez remarqué, comme vous le savez, il y a des commandements et il y a des promesses. Les commandements mettent en valeur, on pourrait dire, notre responsabilité. Hein, ces commandements seront dans ton cœur, tu les observeras. Et puis les promesses, c'est la dimension de la grâce. C'est pas juste fais tout ça et puis on verra après. Hein. Voilà, Dieu est garant, Dieu est partie prenante, on pourrait dire. Et c'est même lui qui va, c'est lui qui va pourvoir. Et là, vous voyez, là, c'est le nous dont je parlais ce matin. Voilà, enfants et parents sont au bénéfice des mêmes promesses, dans l'attente de la même grâce. Voilà, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais Dieu le sait. Voilà, quand un papa ou une maman dit ça, c'est énorme. L'enfant découvre le monde au travers de telles paroles. Hein. Voilà, la maman dit, je ne sais pas comment on va faire, mais Dieu le sait. Vous voyez ce qu'on dessine devant le regard de l'enfant, c'est vraiment très très grand. Voilà. Abraham a été circoncis parce qu'il a cru. Isaac a été circoncis parce que son père a cru. Donc il n'y est pour rien. Mais voilà, donc il est au bénéfice d'un héritage, il est au bénéfice d'une alliance, il est au bénéfice des promesses à cause de la foi de son père, mais lui-même il est héritier de ce que son père a reçu, y compris des commandements, y compris de la fidélité, sois fidèle devant ma face. Et donc il y a une articulation entre la grâce forcément imméritée et la responsabilité qui forge toute la personnalité du chrétien. Voilà. Si je devais résumer le travail de la réforme du XVIe siècle en deux mots, je dirais grâce et responsabilité. Voilà. Calvin, Luther, c'est la grâce. Hein, voilà. Rien de bon ne peut sortir d'un homme pécheur. Tout est grâce. C'est incroyable comme c'est profond, n'est-ce pas? Mais l'homme est responsable de chaque mot qui sort de sa bouche. C'est la responsabilité. On doit gérer ce que Dieu nous confie. Voilà. Donc ces deux mots sont très importants et la grâce sans la responsabilité, ça va pas donner quelque chose de très fameux. Et la responsabilité sans la grâce, il y aura d'autres problèmes. Vraiment, il nous faut tenir les deux ensemble, et je dirais à tous les niveaux de la vie. Voilà. Je cite une autre promesse, juste après la Pentecôte, hein, quand les disciples ont écouté l'apôtre Pierre et disent maintenant qu'est-ce que nous devons faire, et Pierre répond, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc voilà, la promesse est pour les croyants et pour leurs enfants. C'est écrit comme cela. Donc voilà, c'est très précis. Voilà, ça commence par quelqu'un qui est baptisé, qui croit en Jésus-Christ, qui sert la parole de Dieu dans son cœur. C'est pas n'importe quoi, c'est pas sentimental, c'est pas humaniste, c'est pas philanthropique, c'est lié à la révélation de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ça concerne les enfants. C'est quand même encore assez précis. C'est la maison. Les enfants sont sanctifiés par la foi de leurs parents. Et tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre, ça veut dire que c'est un horizon très vaste. C'est pas un clan. C'est pas un sillon étroit qui va disparaître un jour ou l'autre. C'est très vaste, mais c'est aussi très, très ancré et très défini, très, très concret. Voilà. Et là, se développe la notion de vocation, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons gérer ce que Dieu nous confie, le temps que Dieu nous confie, les talents que Dieu nous a donnés, l'argent dont nous disposons, les enfants que Dieu nous a confiés également. Et donc, avec tout cela, la dimension du service. Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné, m'a confié? J'aime rappeler cette parole de Martin Luther, que vous avez peut-être entendu de ma bouche il y a un an et demi. C'est Dieu qui lange l'enfant et lui donne la bouillie, mais il le fait par les mains de la mère. Voilà, je trouve très beau, vous voyez. C'est Dieu qui lange l'enfant et lui donne la bouillie, mais il le fait par les mains de la mère. Alors, vous voyez, ça veut dire la maman, elle est qu'une servante en fin de compte, hein. Elle fait ce que Dieu lui demande de faire, mais c'est son enfant quand même. Enfin, c'est l'enfant que Dieu lui confie. Et c'est ce qui lui donne, c'est tout l'honneur de la tâche que Dieu lui confie. Elle va pas s'arrêter. Dieu lui demande de le faire, hein, voyez. Et ça déborde même le cadre de l'Église. Même les mamans non chrétiennes, normalement, ont reçu ce mandat, s'occuper de leurs enfants de la part de Dieu. Papa aussi, bien sûr. Donc voilà. Ça, c'est à la fois toute l'humilité du service, de la mission dans laquelle on est engagé. Et en même temps, c'est son honneur. Et c'est ça qui donne du sens à la vie. Les loisirs donnent pas de sens à la vie. Les loisirs ne donnent pas de sens à la vie. C'est pas pour ça qu'il en faut pas, hein. Il en faut probablement. Mais les loisirs ne donnent pas de sens contrairement à ce qu'on croit. Donc plus il y a de loisirs, moins il y a de sens. Mais accomplir la tâche qui nous est confiée donne du sens à la vie. Et donne peut-être les plus belles joies qu'on puisse avoir sur la terre. Condition qu'évidemment, les conditions ne soient pas accadabrantes ou difficiles, et malheureusement, je sais bien qu'elles peuvent l'être. Donc ça, c'est vraiment important, et les enfants vont découvrir, je dirais, la propre grâce qui leur revient, voilà. Ils ne méritent rien, mais ils reçoivent grâce sur grâce. Par exemple, je me souviens quand j'étais aumônier militaire en Allemagne, des jeunes garçons qui disaient, mais je vais perdre 10 mois de ma vie. Et je leur disais, mais depuis 20 ans, tu as tellement reçu, tu peux donner 10 mois pour la nation. Vous voyez? Mais est-ce que tu peux compter tout ce que tu as reçu jusqu'à maintenant? Voilà. Alors évidemment, ça te rapporte rien, mais tu as beaucoup reçu, maintenant c'est à toi de contribuer à l'effort commun, disons, hein, c'est ta participation d'adulte. Si on attaque le pays, il faut le défendre. Et donc, vous voyez, j'essaie de donner du sens à quelque chose qui, pour eux, a priori, n'avait pas de sens. Et voilà. Et donc, les enfants vont découvrir le sens de ce qu'on leur demande, ou de ce qu'ils reçoivent, devenir participants. Et un enfant de 5 ans, de 8 ans, peut déjà devenir participant de la vie de la maison. « Maman, tu es fatiguée, ce soir je mets le couvert. » Ben, c'est quand même... Eh, c'est pas impossible que ça arrive. Comment faire pour que ça arrive plus souvent? C'est un défi, hein. Voilà. « Maman, tu es fatiguée, je vais mettre le couvert. » C'est la grâce quand même, hein. Quelle joie pour la maman et puis pour l'enfant. L'enfant n'est jamais aussi heureux que quand il est utile. Déjà, il faut lui demander, voilà, est-ce que tu peux m'aider à débarrasser ce soir? Ça sera super. Enfin, voilà. Je crois qu'il faut apprendre cela, tout simplement, et je ne doute pas que vous le faites déjà pour une grande part. La dimension du service, la joie de servir. Voilà. C'est une joie pour le juste d'accomplir la justice. Je ne sais plus où c'est écrit, mais c'est écrit quelque part. C'est une joie pour le juste d'accomplir ce qui est juste. Voilà. Et les enfants peuvent déjà vivre ça chez eux. Un dernier verset, je l'ai mentionné ce matin, j'y reviens en un instant. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. » Vous voyez, donc, alors qu'est-ce que ça veut dire honorer son père et sa mère, hein? C'est pas forcément obéir toute sa vie, mais enfin, honorer, c'est quand même beaucoup, hein? Honorer, c'est énorme. Voilà. Honorer, c'est donner la valeur, c'est reconnaître la valeur. Voilà. Nos parents, bien que déficients, nous ont tenus dans leurs bras, nous ont appris à marcher, nous ont soignés quand on était malade. On leur rendra jamais suffisamment. Et Paul dit dans la première à Timothée au chapitre 5, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leurs parents. Rendez compte, la piété, c'est-à-dire le désir de leur être agréable. Et c'est le reflet de la piété des parents vis-à-vis de Dieu. Donc les parents ont une piété vis-à-vis de Dieu, les enfants ont une piété vis-à-vis de leurs parents. Alors vous me direz, c'est pas automatique. Non, c'est pas automatique, hein. Il y a plein d'interférences, il y a plein de perturbations, mais ne partons pas battus. Voilà. Je le dis pour les parents, je le dis pour les grands-parents, parce que j'observe cette tentation de baisser les bras, de dire ben, le monde est plus fort, l'école est plus forte, les médias sont plus forts, les réseaux sociaux sont plus forts, ils vont nous ravir nos enfants, on va constater qu'ils vont s'en aller, qu'ils vont croire d'autres choses. Alors, c'est pas impossible malheureusement, mais ne partons pas vaincus. Parce que si nous avons l'idée d'être vaincus, l'enfant le lit dans nos yeux. Comprenez? Quelqu'un d'alcoolique lit dans les yeux de ceux qui le regardent si on lui fait confiance ou pas. Si on lui fait confiance, il s'abstient. Si on doute de lui, il va boire. Donc ça veut dire que notre regard lui dit ce qu'il va faire. Voilà, bon, je le dis de manière un peu schématique, mais je crois que c'est très important. Voilà. Et comme je vous le rappelais ce matin, Paul s'adresse directement aux enfants de la part du Seigneur. Voilà. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et donc, on leur donne un discours, enfin, c'est pas un discours, on leur donne un message qui n'est pas dévalué par rapport à ce qu'on va dire à des adultes. C'est le même message avec des mots pour les enfants. Mais c'est le même message. Voilà. Parce que c'est la même vérité, sont les mêmes enjeux. Et c'est jamais trop tôt pour commencer. Et même s'ils se détournent, en tout cas, ils n'auront pas ignoré ces choses. Ils les auront entendues. Et les promesses de Dieu, eh bien, Dieu ne les oublie pas. Je voudrais dire un mot maintenant sur la différence entre la vocation maternelle et la vocation paternelle. Et je voudrais, à ce moment-là, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais je veux le dire quand même, la vocation maternelle concerne toutes les femmes, même celles qui n'ont pas d'enfants. Et la vocation paternelle concerne tous les hommes, même ceux qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Donc on est tous concernés. L'apôtre Paul n'avait pas d'enfants. Et il dit à Timothée, mon enfant. Donc il y avait bien une paternité dans le cœur de Paul vis-à-vis de Timothée. Et Jean n'avait pas d'enfant, et Jean écrit, « Petits enfants, je vous écris ces choses. » Et donc Jean exerçait une paternité sur des chrétiens qui n'étaient pas ses enfants et qui n'étaient plus des enfants. Mais voyez le rapport parental, ce qui signifie de grâce et de responsabilité. Vous voyez, je citais ce matin, hein, je me répète, « Petits enfants, je vous écris ces choses, car vous n'êtes plus des enfants. » Vous voyez, en disant « Petits enfants », c'est la grâce, je suis là pour prendre soin de vous, vous n'êtes plus des enfants, c'est la responsabilité. Et on peut déjà dire ça à un enfant de 6 ans et de 8 ans et de 12 ans. On lui dit plus, tu n'es pas un enfant, mais on lui dit, tu es assez grand pour comprendre. Et ça c'est toute la difficulté des parents de comprendre où en est chaque enfant, et ça change pas tous les jours mais presque. Voilà, ça c'est la grande difficulté des parents d'accompagner les enfants en étant ni trop en avance ni trop en retard. Ça demande beaucoup d'attention, ça demande du dialogue, de l'écoute, ça demande d'aller marcher avec son enfant tout seul, de temps en temps, au bord du canal ou le long d'un chemin. Voilà. Je trouve qu'il y a un texte dans la première lettre aux Thessaloniciens qui est très éclairant à ce sujet, puisque l'apôtre Paul, pour décrire son ministère, va tour à tour se comparer à une nourrice et un papa. Vous connaissez ce passage, hein, 1 Thessaloniciens 2, il dit voilà, vous savez ce que nous avons été pour vous, ce qu'une nourrice est pour ses enfants. Alors, j'observe qu'il ne dit pas maman, il dit nourrice. J'en déduis que une des vocations premières de la maman, ben, c'est de nourrir. À mon avis, ce n'est pas péjoratif, hein. La maman a nourri son enfant quand elle le portait déjà. Elle le nourrit si elle l'allaite. Elle le nourrit quand on lui donne le biberon et la bouillie. Le papa peut le faire aussi, mais pas exactement comme la maman. En tout cas, je pense que la vocation de la maman est de nourrir. Nourrir, c'est pas simplement du lait et de la blédine. Nourrir, c'est aussi l'affection, c'est aussi la protection première de l'enfant, c'est la consolation, c'est toute l'attention dont l'enfant a besoin pour grandir. Depuis sa naissance, et même avant sa naissance, jusqu'à ce qu'il quitte la maison. C'est-à-dire à 35 ans. Non, je plaisante. Voilà. Donc, il y a un lien tout particulier entre la maman et l'enfant. Je ne pense pas que ce soit usé de discrimination de dire cela. Le psychopédiatre Aldo Nauri dit « La maman a une énorme avance sur le papa dans la relation avec l'enfant. Le papa ne pourra jamais rattraper l'avance de la maman à cause des liens qui ont été tissés entre la maman et l'enfant avant sa naissance et dans les premiers mois, les premières années de la vie de cet enfant. Il faut que le papa s'introduise plus ou moins maladroitement dans la vie de ce petit être qui vient de naître, sans s'interposer. Il s'interposera plus tard, mais pour le moment, il est là pour apporter sa contribution avec sa voix d'homme, avec sa présence d'homme. Et l'enfant, on le sait, a besoin d'un papa et d'une maman. Je relis ce que dit Paul. De même qu'une nourrice prend tendre soin de ses enfants, donc tendre soin. Tendre soin, ça dit quelque chose, hein? Pourquoi il y a plus d'aides-soignantes et d'infirmières que d'aides-soignants et d'infirmiers? Parce que probablement est inscrit dans la nature féminine la notion du soin. Du soin du petit enfant, du soin de la personne malade ou blessée. C'est pas indigne, hein? Mais la vie, c'est très beau. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un aide-soignant ou un infirmier qui fasse aussi un très bon travail. Mais à mon avis, ce n'est pas déplacé qu'une femme exerce sa vocation dans le cadre du soin. De même qu'une nourrice prend tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, encore des termes qui disent quelque chose, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tellement vous nous étiez devenus chers. Donner sa propre vie, voilà, ça veut dire là son temps, sa substance, ses nuits, sa peine, transmettre ce qui manque en prenant de ce qu'on a pour le donner à celui qui en manque. Vous voyez, il y a quelque chose de typiquement maternel. Mais Paul parle de ça pour décrire son ministère d'apôtre. Il est un homme. C'est étonnant quand même. Et donc il dit, dans le ministère de l'apôtre, je comprends l'apôtre comme celui qui intervient quand il n'y a pas encore d'autres ministères. Il est le seul. Donc il cumule un peu tous les ministères. Il est l'ancien, le diacre, le pasteur, l'évangéliste, le docteur. Il est tout ça. Et il va nommer d'autres ministères et ensuite il s'en va. Bon, voilà comme je le comprends. Hein. Mais pour le moment, il est l'apôtre, donc il est un peu le papa et la maman. Et donc il dit, je suis comme une maman. Et il décrit un ministère de type maternel. Et juste après, il dit, nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour son enfant. C'est intéressant quand même. Donc il ne faudrait pas qu'il n'y ait qu'une maman normalement, il faudrait qu'il y ait une maman et un papa. En tout cas, c'est ce que Paul a été. L'Église avait besoin de ces deux Pauls-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Vous exhortant, vous encourageant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de l'Évangile. Ouais, c'est pas tout à fait pareil quand même, hein? Voilà les termes que je lis. Voilà, vous exhortant, vous encourageant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de l'évangile de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et donc là, on est sur le registre de la responsabilisation. Ça me paraît assez net. Alors, est-ce que tout ça est coupé au couteau? C'est-à-dire, la maman prend soin, elle fait que prendre soin, le papa exhorte et encourage, il fait que exhorter et prendre courage. La réponse est non. La réponse est non, la maman va aussi responsabiliser. C'est évident, n'est-ce pas? Mais elle devra peut-être se faire plus violence pour le faire. C'est un peu la vocation du papa de le faire. Voilà. Et le papa peut aussi prendre soin et relever son garçonnet qui est tombé, qui s'est écorché le genou en le tenant contre son cœur pour lui dire « ça va passer ». Le papa peut très bien faire ça, n'est-ce pas? C'est pas interdit. Mais il n'empêche que ce n'est pas son rôle principal. C'est pas de cela qu'il est le garant principalement. C'est pas la vocation première que Dieu lui donne. Et donc vous l'avez compris, je crois à la complémentarité des vocations et que même si elles sont parfois interchangeables, elles ne sont pas totalement interchangeables ces vocations. Et que si on veut interchanger des choses qui ne sont pas faites pour cela, on aura des fruits qui ne seront pas forcément des fruits aussi beaux que ceux qu'on espérait, n'est-ce pas? Et alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer des non-chrétiens qui observent ces mêmes choses et qui enseignent dans ce sens-là aussi. Hein. Par exemple, moi, c'est une psychologue non-chrétienne de l'hôpital d'Alès, où j'étais aumônier, qui a dit un jour dans une formation pour nos visiteurs, eh bien, c'était une formation, écoutez bien, hein, c'est une formation sur la manière de poser sa voix. Donc c'était un peu technique, hein. Est-ce qu'il faut parler fort, pas trop fort, quand on rentre dans la chambre d'un patient, voilà. Et elle dit, cette psychologue-là, très expérimentée, elle a dit, la maman a une voix qui enveloppe. Le papa a une voix qui met à distance. Donc la maman est protectrice, le papa, il est celui qui, la voix masculine plutôt, elle est celle qui encourage à se remettre en route, on pourrait dire, quelque chose comme ça. Voilà. Et elle a dit, c'est d'elle que je l'ai entendu la première fois, après je l'ai revu de multiples fois, le papa a un rôle séparateur, il a un rôle émancipateur. Et donc, dans le couple maman-enfant, le papa doucement s'introduit pour dire à l'enfant, tu peux le faire tout seul. Pour dire à la maman, laisse-le se débrouiller maintenant. Voilà, il est grand. Alors, peut-être que vous allez dire, je schématise un petit peu, je ne suis pas sûr de schématiser, hein, mais cette idée que le papa a un rôle émancipateur, je l'ai lu trop de fois pour penser que c'est juste une lubie, une invention, et donc, en un sens, c'est le papa qui est garant de la maturité de l'enfant qui s'inscrit dans son cheminement depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Voilà. Évidemment, il est souhaitable que le papa et la maman soient accordés, s'il y a les deux, non pas en tension, mais visant l'un et l'autre le développement de l'enfant sa prise de responsabilité dans un contexte où il sera à la fois protégé et responsabilisé. Alors, les foyers monoparentaux, on disait, il y a beaucoup de foyers monoparentaux. Les foyers monoparentaux présentent une situation, c'est-à-dire qui n'est pas normale. Voilà, c'est pas la situation idéale, mais pour autant, ça existe, et ça existe même assez souvent, et quelquefois très souvent. Voilà. Alors, on en parlait un peu à table tout à l'heure. Eh bien, là intervient ce que j'ai évoqué tout à l'heure, je crois, c'est-à-dire que la charge maternelle, c'est pas que la maman qui la porte, c'est toutes les mamans de l'Église. Et donc, s'il manque une maman, d'autres mamans, sans forcément venir faire la cuisine à la maison, d'autres mamans sont porteuses de la fibre maternelle qui manque dans ce foyer. Et s'il manque un papa dans ce foyer, il y a d'autres papas dans l'Église, il y a d'autres hommes dans l'Église d'ailleurs, papa ou pas papa, mais il y a d'autres hommes dans l'Église qui peuvent assurer, dans l'environnement de cet enfant, la charge masculine dont l'enfant a besoin pour se développer. Boris Cyrulnik appelle ça... Je ne sais pas si je l'ai noté quelque part, la bulle, comment il appelle ça? C'est dans une de mes annexes. Voilà, c'est-à-dire la participation d'un cercle plus large que le cercle strictement familial. Hein, ce que les Africains appliquent à la tribu. Vous voyez, dans une tribu, il y a plusieurs grands-pères, il y a plusieurs mamans et plusieurs papas et des oncles en grand nombre. Et si un papa part à l'étranger pendant 3 semaines ou pendant 3 ans, comme ça peut arriver, eh bien, il y a d'autres papas qui sont pas loin. Et donc, la maman n'est pas toute seule avec son enfant. Alors, c'est un peu délicat, hein, parce que ces papas, ils vont pas venir dans la maison faire la pluie et le beau temps, mais ils sont pas absents pour autant. Et nous, en tant que communauté, je pense que nous pouvons... pallier, en tout cas jusqu'à un certain point, aux carences qui peuvent exister dans une maison ou dans une autre, avec toute la délicatesse, la précaution qui sont nécessaires, mais de telle sorte que l'isolement soit pas si grand et que les carences soient pas si graves. Voilà. Un enfant observe tout ce qu'il y a autour de lui, hein, et on ne sait pas ce qui le marque le plus, c'est pas forcément ce qu'on croit. Un enfant va réagir à ce que quelqu'un a dit, les parents l'ont dit 100 fois. Les parents ont dit 100 fois une chose, l'enfant n'a pas fait tilt. Quelqu'un le dit 101e fois, l'enfant dit « Ah, on m'avait jamais dit ça ». Les parents l'ont dit 100 fois auparavant, vous voyez. Mais ça vient de quelqu'un qui est extérieur et qui le dit. Et donc, vous voyez, ça c'est la participation communautaire à la maturité et à la croissance d'un enfant, et je pense qu'il faut l'accepter avec beaucoup d'humilité. Le point que je veux aborder ici, dans la suite de ce qu'on a dit, c'est la question de la maturité. La question de la maturité, c'est évidemment un objectif, pas seulement le confort, la maturité. En un sens, c'est le rôle des papas, même si les mamans y participent grandement. Et la carence de responsabilité des papas dans les maisons, trop souvent constatée pour X raisons, cette carence de responsabilité des papas va nuire évidemment à la maturité. Voilà, c'est pas très compliqué. Et je suis sensible à ce que certains ont constaté et ont appelé la féminisation des pratiques. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, en tout cas maintenant vous en avez entendu parler. La féminisation des pratiques, ça veut dire que le comportement général des hommes dans notre modernité sont des comportements qui tendent à ressembler plutôt au modèle féminin qu'au modèle masculin. C'est-à-dire que le modèle masculin est suspecté d'être dominateur, violent, égoïste, alors que le comportement féminin est dans le care, dans l'accompagnement, dans l'écoute, dans le soin. Et donc on valorise le comportement féminin et on culpabilise le comportement masculin. Je le dis à très grands traits, hein, voilà. Alors, il faudrait pas exagérer ce constat et rentrer dans des caricatures qui ne seraient pas justes. Cependant, il me semble que ça correspond à une certaine responsabilité. Beaucoup de papas sont paumés. Voilà. Ça a plus où se situer. Et donc, ils fuient leur responsabilité. Voilà. Les mamans s'écroulent, les papas fuient. Voilà. C'est le titre d'un livre. Les mamans s'écroulent, les papas fuient. Or, c'est pas vrai tout le temps, attention, hein. Mais c'est la tendance qui s'observe. Et il y a déjà longtemps, j'avais entendu une psychologue dire ceci, qui m'avait beaucoup frappé. Aujourd'hui, les papas s'occupent des enfants autant que les mamans, virgule, mais ils s'en occupent comme des mamans. Aujourd'hui, les papas s'occupent des enfants autant que les mamans, on pourrait dire tant mieux, mais ils s'en occupent comme des mamans. Dommage. C'est-à-dire l'enfant a deux mamans. Encore une fois, je suis dans la caricature, hein. Donc l'enfant a deux parents pour qui la première responsabilité, c'est que l'enfant ne souffre pas, que l'enfant ne soit pas exposé à des épreuves difficiles, que l'enfant ne manque de rien. Donc on va pourvoir aux besoins de l'enfant. L'enfant veut quelque chose, il demande à sa maman. Si elle dit non, le papa va le donner. Dans les couples divorcés, malheureusement, il y a des mécanismes d'appropriation de l'enfant qui vont encourager cela. Donc la maman fait un cadeau, le papa fait encore meilleur pour dire « voilà, je ne suis pas un mauvais papa ». Et donc l'enfant est habitué à ce qu'il veut ceci, il tire la sonnette, on le lui donne. Parce que c'est comme ça qu'on va démontrer qu'on est de bons parents. Voilà. On va donner de l'argent, on va donner des cadeaux, on va aller dans des parcs d'attractions, etc. Parce que le monde est difficile, il faut bien se détendre, et tout ça c'est vrai, n'est-ce pas? Mais il y a une prépondérance, de recherche de bien-être et de plaisir, qui ne donne pas de sens à la vie. Voilà. Évidemment, la maturité, dans ces conditions, la maturité est mise en question. Vous voyez, à 12 ans, Jésus dit à ses parents, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Vous rendez compte ce que ça signifie comme conscience de la vocation qui est inscrite dans son cœur. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et ses parents ne comprennent pas. Voilà, je trouve que cet épisode est vraiment très marquant. J'ai mentionné Aldo Nauri, vraiment c'est un auteur de qui j'ai beaucoup reçu, Aldo Nauri, d'origine syrienne, âgé maintenant. On l'a interrogé sur ce phénomène qu'on appelle l'adolescence. Vous avez déjà entendu ce mot-là, hein. L'adolescence, ça veut dire quelqu'un qui reste adolescent alors qu'il devrait être un adulte. Voilà. Et voilà ce que dit Aldo Nauri. On n'élève plus les enfants pour faire d'eux des adultes suffisamment matures pour s'inscrire dans un corps social et y intervenir. On les élève d'abord pour en jouir narcissiquement, en tant que parents, en comblant le moindre de leurs désirs. On se complaît dans l'idée de faire durer l'enfance le plus longtemps possible. On investit le seul plaisir et avec lui l'instant, le court terme. On vit dans les dimensions féminines du temps. Il n'y a plus de hiérarchisation. Cela est ressenti dramatiquement par les enfants, même devenus grands. Bon, vous retrouverez cette citation avec mes notes si vous le voulez. Voilà. Je pense que je vais proposer simplement de réagir et de poser vos questions, d'exprimer vos remarques. Je n'aurai pas forcément la réponse aux questions, aux situations évoquées, mais je pense que ça serait intéressant de pouvoir échanger ensemble. Et je terminerai juste en disant que pour la Bible, le disciple est un enfant et l'enfant est un disciple. Je pense que cette juxtaposition est porteuse de beaucoup d'enseignements. Voilà, je suis prêt à échanger avec vous. Oui.
Comme j'ai pu te le dire, hein, je tutoie, je fais partie d'une mission, hein, qui est le concours biblique que tu connais bien. Donc tu as énormément parlé de la maison, de la parentalité, de la transmission, en parlant aussi qu'il était vital et indispensable de transmettre la parole de Dieu, la Bible, l'enseignement. Mais au concours biblique, la notion il n'y a pas de maison. Parce qu'on envoie des questionnaires à des enfants et il n'y a pas forcément l'adulte qui est derrière. Bon, ça arrive, mais on touche des enfants de 6 à 16 ans, voire plus. Et qu'est-ce qui nous manque dans la transmission, je dirais, de l'évangile, de la connaissance de la Bible, quand il n'y a pas forcément la maison derrière, quoi, entre guillemets. Et les questions fusent, hein, je veux dire, les enfants posent des questions, on aborde aussi des problèmes éthiques, mais il n'y a pas la parentalité qui est derrière, puisque nous sommes simplement des correcteurs, un peu plus parce que les enfants se confient. Mais qu'est-ce qui, dans l'exercice de la mission, pourrait compléter cela, quoi?
Difficile, hein, comme question. Mais moi, je dirais que vous exercez, je dis un vous collectif, hein, oui. Vous exercez une forme de parentalité. Si je reviens à la définition que j'ai donnée, même celui qui n'a pas d'enfant, il est un papa ou elle est une maman. Ça veut dire elle est chargée de veiller et de pourvoir et d'accompagner et d'aider celui qui est plus petit ou plus faible à gravir les échelons, à répondre aux questions, à dire pourquoi tu as l'air fatigué en ce moment, viens me voir à la maison, on pourra parler ensemble. Donc, en un sens, je dirais, même par correspondance, vous exercez une forme de paternité, masculine et féminine, selon qui répond aux questions, etc. Donc, voilà, vous n'êtes pas, de ce point de vue, vous n'êtes pas hors-jeu. Voilà. Deuxièmement, je dirais, toute paternité a sa limite. Donc, vous avez votre limite en tant que concours biblique. Voilà, vous n'êtes pas sur place, vous n'êtes pas là la nuit, vous n'êtes pas là tous les jours, mais les parents directs des enfants ont d'autres limites. Par exemple, hier, une grand-mère m'a dit, mon enfant m'a confié quelque chose qu'il n'a pas dit à ses parents. Donc l'enfant fait quelque chose qui n'est pas forcément grave, mais il pense que ses parents n'approuveraient pas. Donc il ne dit pas à ses parents. Donc, vous voyez, la paternité, là, ou la parentalité, elle est en difficulté, elle n'est pas au courant. Mais l'enfant le dit à sa grand-mère, qui habite un peu plus loin. Et donc, elle joue un rôle parental, quelque part, mais un peu en décalage. Mais ce rôle est important aussi. On pourrait dire la même chose des enseignants. Un instituteur, une institutrice, un professeur masculin ou féminin, il exerce un rôle de type parental, quelque part. Pourtant, il n'est pas le papa, il n'est pas la maman, mais il a un créneau très important. Regardez comme Albert Camus parle de son instituteur. Sa maman ne savait pas lire. Il a eu le prix Nobel de littérature. C'est son instituteur qui lui a donné le goût de la lecture. Et donc, vous voyez, il y a comme cela des recours, peut-être innombrables, qui peuvent intervenir au fil d'une lecture, d'une rencontre. Et je dirais, la source de toute paternité, elle est en Dieu. N'oublions pas cela. Et ensuite, Dieu diffuse cette paternité de diverses manières. Bien sûr, il confie normalement d'abord au papa et à la maman de prendre soin de l'enfant, de le faire grandir. Mais le papa et la maman, des fois le papa est mort, la maman est malade, ou le papa est trop pris, la maman est distraite, je ne sais pas quoi. Et donc il y a d'autres moyens que Dieu utilise, qui ne vont pas forcément répondre à tous les besoins, mais qui vont faire en sorte qu'il n'y ait pas rien. Voilà. Et donc, voilà, je dirais, le concours biblique exerce une forme de parentalité dans un créneau particulier avec sa limite, mais toute parentalité a sa limite, et les meilleurs parents ont leurs limites.
Oui, c'est ce qui se passe parce que il y a beaucoup d'enfants qui posent des questions qu'ils ne poseraient pas à leurs parents.
Mais bien sûr.
Directement au correcteur, quoi.
Mais bien sûr. Donc le cercle familial est important, mais il n'est pas l'horizon ultime. Et en tant que parents, ne bornons pas l'horizon de nos enfants. Ouvrons l'horizon de nos enfants, hein. Voilà. On n'est pas là pour se mettre sur leur chemin et leur dire c'est comme ça que tu dois faire à tout prix. Non, des fois les parents peuvent dire je ne sais pas et d'autres personnes peuvent prendre le relais. Il y a une modestie quand même, hein. Il y a une importance du rôle parental, mais il y a une modestie du rôle parental. Songez que Joseph et Marie ont marché 2 ou 3 jours. 3 jours sans leur enfant quand même. Alors ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça veut dire que peut-être il y avait tout un village qui se déplaçait pour la fête, et donc l'enfant était avec les autres enfants dans le village. Vous voyez la notion de collectivité, de communauté. Quand même 2 jours sans savoir où est l'enfant, 2 jours pour revenir, il s'était mort de soucis. Donc voilà, ça nous parle de toute limite qui intervient, et il faut accepter nos limites, et c'est pas pour ça que ce n'est pas important.
Il y a des gens qui pensent, des chrétiens aussi, par exemple Guillaume Argon, il le pense aussi, je sais pas si vous connaissez.
Oui.
Il dit beaucoup que la maman est plus dans la relation, tandis que le père, il dit « tu peux ». La mère dit « je t'aime, je t'ai porté ».
C'est ça.
Et le père dit « tu peux ». Donc, c'est pas tout à fait le même rôle. Mais je pense que c'est pas schématique, parce que ça dépend des familles. Mais je pense que le père et la mère se complètent, et on peut pas remplacer ça. Ceux qui ont des... qui en ont, qui sont morts ou qui les ont abandonnés. On voit, j'ai des copains comme ça des fois, et on voit que c'est une lacune, parce que l'amour du père et d'une mère, c'est 2 choses qui sont très importantes, quoi. Donc,
tout à fait. On
mais
est d'accord.
Le rôle, c'est différent.
Le rôle sont différents et complémentaires, ouais. Et puis pas tranché au couteau, encore une fois. La maman peut dire à un enfant, tu es grand, maintenant tu fais tes tartines tout seul. Et le papa peut dire à l'enfant, écoute, je vais t'aider, repose-toi, tu es fatigué. Donc voilà, il ne faut pas caricaturer les postures. Hein. Pour autant, elles ne sont pas de la même nature l'une et l'autre.
Ouais.
C'est vrai. Est-ce que vous seriez d'accord, je vous pose une question, je peux poser une question, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que dans une prédication, il devrait y avoir une dimension féminine et une dimension masculine, c'est-à-dire une dimension de consolation, de protection, et une dimension responsabilisante de défi et d'appel à la volonté, dans chaque prédication? Oui, là-bas, quelqu'un veut... Oui, oui, bien sûr, hein, mais moi-même, je suis pas sûr d'avoir la réponse. Hein, mais...
Alors, moi, je serais totalement d'accord sur le fait que, à mon sens, une prédication a vocation à, autant que possible à être complète
oui.
dans l'enseignement, et que l'enseignement est le message que le Seigneur a à nous faire passer est très large. Et on le voit à travers toute l'écriture, tout le livre qu'il nous a laissé, qui est la Bible, où on va avoir autant de des directives qui sont données que de l'encouragement,
c'est
etc.
Ça.
Et donc, dans le cadre, alors est-ce que ça se résume à une prédication ou à des prédications sur un mois, sur deux mois, sur un ensemble. En tout cas, que dans la vie d'une église, on ait ces deux volets qui soient présents, ça me paraît extrêmement important. Après, je dois avouer, mais on en a parlé à table, j'ai un petit peu plus de mal, même si vous l'avez bien dit, hein, que c'était pas tiré au, coupé au couteau, avec cette distinction si tranchée de l'homme qui aurait ses attributs de guider, de sérieux, de responsabilité, et de femme qui serait d'une certaine manière résumée à prendre soin de l'enfant. Et voilà, on sait que les femmes peuvent donner de la perspective, et qu'elles soient à leurs enfants comme à un groupe ou à une société, et des hommes peuvent aussi prendre soin de leurs enfants, et ça ne fait pas d'eux des femmes, ni vice-versa. Je suis pas sûre que ça ne tienne qu'à ça. Mais après, moi, je partage vraiment mon expérience très personnelle. Typiquement, c'est moi, j'ai grandi avec ma mère seule, du fait d'avoir un père qui, malheureusement, je pense vraiment, était néfaste pour notre foyer. Et pour autant, c'est ma mère qui m'a donné, qui m'a appris à me dire, bah, relève-toi, ma fille, il va falloir avancer, il va falloir penser à ton avenir. Qu'on pourrait dire serait à ce moment-là des attributs d'homme, et c'est aussi elle qui m'a fait grandir, qui m'a nourri, qui a séché mes larmes, etc. Et je pense que et on va avoir des papas qui s'occupent seuls de leurs enfants parce que suite à un décès, parce que suite à une rupture ou qu'importe, et qui n'ont pas le choix que d'endosser à un moment donné ces deux facettes. Et donc finalement, moi, la question que je me pose plus, c'est de se dire: comment faire pour que dans la vie d'un enfant ou d'une famille, d'une manière ou d'une autre, et vous l'avez dit, qu'il y ait juste un parent ou deux parents, que en tant qu'Église, nous puissions être un entourage complet pour ces enfants. Et ça peut passer par une prédication, qu'une prédication soit complète, qu'on retrouve ces deux facettes. Parce que moi, par exemple, enfant, je me suis quand je me suis convertie et que vraiment j'ai adopté le Seigneur, ou que le Seigneur m'a adopté, c'était Dieu le Père. Et pour moi, Dieu le Père, c'était un Père autant qui nourrit ses enfants, un Père qui est le refuge, qui est le rocher, qui est la main qui soutient. Et c'est, je crois que c'est écrit dans la Bible, que Dieu le Père qui dit maintenant, lève-toi et marche. Et alors, est-ce qu'on dirait Dieu est Père et Mère aussi? Je sais pas. Mais en tout cas, il me semble que on peut retrouver à travers ce Dieu, ces deux attributs qui sont essentiels pour la sécurité affective d'un enfant. Et on connaît la pyramide de Maslow avec, au début, il faut cette sécurité affective, et puis ensuite la sécurité matérielle, et ainsi de suite, on avance. Ça, on le retrouve autant en Dieu que dans toute une communauté, et si possible dans un foyer. Enfin voilà, je suis désolée, j'apporte pas grand chose, mais
Si. Merci voilà. Beaucoup. Merci. Oui, quelqu'un d'autre voulait poser une question ou donner un témoignage.
Oui, quand je revenais sur ce que vous avez dit, sur en fait aujourd'hui on a dans une des parents qui souvent assument bien la fonction maternelle, le père comme la mère, et moins la fonction paternelle. Et moi je m'interroge, après c'est juste moi-même, je pense voilà, c'est une question sociétale. Est-ce que il n'y a pas du temps de quantité et du temps de qualité? C'est-à-dire que pour moi, on rentre le soir, des fois on est, et puis certains parents rentrent épuisés, et il n'y a plus que du temps de maternage. C'est-à-dire il faut nourrir, il faut laver, prendre soin, etc. Il n'y a pas vraiment une fonction d'exhortation où on est tous épuisés et on n'a pas forcément le temps pour faire ce temps, parce que moi je crois à la fonction paternelle et à la fonction maternelle. Je le sépare peut-être un peu moins au niveau d'un, c'est-à-dire pour moi des femmes peuvent assurer un temps la fonction paternelle comme le père peut prendre à un moment donné la fonction maternelle ou maternante. Et je pense que quand on n'est plus que dans une société où il faut satisfaire, donc comme parlait Camille, les besoins fondamentaux que sont la pyramide, enfin voilà, les besoins fondamentaux, juste se nourrir, dormir, etc., on a peut-être moins de temps pour faire cette fonction paternelle fondamentale, et pour ça qu'on retrouve peut-être des adolescents, etc. On n'a pas responsabilisé, on n'a pas demandé quelque chose à l'enfant, parce qu'on n'était même plus soi-même ni en possibilité de l'enseigner, ni l'enfant peut être en capacité de le recevoir. Parce qu'un enfant qui commence à 7h le matin et qui arrive à 18h chez lui...
Moi, je le voyais quand j'étais à l'école. Vraiment, les familles déchargent leur rôle d'éducation sur les enseignants. Et effectivement, quand on pose son enfant à 7h du matin à la garderie, qu'on récupère à 7h le soir, on n'a pas le temps d'éduquer son enfant. On n'a que le temps, effectivement, d'être plus dans le soin. Et du coup, bah, c'est l'école qui va prendre en charge ce rôle, mais à la base,
elle peut pas le faire.
À la base, c'est pas son rôle. Voilà.
Non, non. Et les enseignants démissionnent les uns après les autres, vous le savez, parce que la tâche est démesurée et les conditions ne sont pas remplies.
Moi, je sais pas, par rapport à la question que vous venez de soulever, il me semble que, bah, l'enfant, il a différentes étapes. C'est sûr, quand il est petit, forcément, on peut être que dans le soin. Mais après, au fur et à mesure qu'il grandit, on peut le responsabiliser, le demander de faire des petites choses et tout ça. Et au contraire, ça peut décharger les parents qui sont surchargés sans pour autant l'esclavagiser, quoi. Enfin, je sais pas, mettre la table, faire des petits trucs comme ça, quoi, qui sont pas non plus... Et petit à petit, lui apprendre à participer, à être responsable, etc., quoi.
Bien sûr. Alors, ce qui est sûr, c'est que les deux parents doivent tirer dans la même direction. Si la maman tire d'un côté et le papa tire de l'autre côté, là on est dans une caricature des rôles, soit liée d'ailleurs au tempérament de chacun, le tempérament ça joue beaucoup aussi, hein, soit liée à la vision que l'on a, la maman dit peu cher, peu cher, peu cher, peu cher c'est en provençal, hein, je sais pas si on comprend ici, peu cher, ça veut dire le pauvre, voilà. Et le papa dit non, non, il a qu'à le faire, moi à son âge je le faisais déjà depuis longtemps, etc. Donc voilà. Et là, les parents se disputent devant l'enfant, chacun tirant de son côté. Là, c'est pas du tout souhaitable. Les deux, en fait, ont pour objectif que l'enfant ne manque de rien, mais qu'il grandisse, qu'il franchisse des étapes pour devenir à son tour capable de prendre soin de quelqu'un d'autre. Mais un garçon de 8 ans peut donner la main à son petit frère de 6 ans, vous voyez? Et donc déjà, un enfant de 8 ans qui donne la main à son petit frère de 6 ans, il commence à devenir un petit papa. Donc c'est encore un enfant, c'est déjà, il rentre déjà dans un souci parental. Maman, il y a la petite sœur qui est tombée et qui pleure là-bas. C'est pas grand-chose, mais vous voyez, il s'occupe d'autre chose que de lui. Il s'occupe de quelqu'un d'autre, il veille. Donc il est déjà en train d'apprendre. Je repense à ce que dit Paul au début d'Éphésiens 6. Hein. Enfants, obéissez à vos parents. Donc déjà, il faut que les parents donnent des ordres. Sinon, l'enfant ne peut pas obéir. Donc si les parents font que expliquer ou donner du Nutella, l'enfant il peut pas mettre en pratique le commandement de la parole de Dieu. Donc enfant, obéissez à vos parents, honore ton père et ta mère, j'en ai parlé. Et ensuite il est dit, c'est un petit peu fort, hein. Oui, ensuite Paul dit père. Alors pourquoi il dit père? Alors là, il y a ceux qui disent, oui, mais Paul, c'est un pharisien, il n'a pas tout compris, tout ça. Donc, ceux qui comprennent mieux que Paul, moi, je ne considère pas que je pense mieux que Paul, tu vois. Mais Paul dit, père. Père, n'irritez pas vos enfants. Donc, ça veut dire qu'on peut irriter son enfant, ce n'est pas le but. Lui demander plus que ce qu'il peut faire. Voilà. Mais, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il y a trois verbes, là. Ces trois verbes sont très importants. Élever, c'est pourvoir aux besoins immédiats. Donc on pourrait dire, en un sens, c'est le rôle de la maman. Peut-être ça peut être choquant d'entendre ça. Mais en tout cas, pour donner le sein, c'est sûr que c'est la maman. Hein. Et pour dire, mets ton bonnet et ton écharpe, souvent c'est la maman aussi. Bon, le papa n'est pas forcément absent non plus. Donc c'est que l'enfant ne manque pas de ce qui est vital pour son fonctionnement premier. Nourriture, boisson, sommeil. Vous savez, il y a des enfants qui n'ont pas tout ça, hein, pour diverses raisons. Voilà. Affection, écoute, respect. Voilà. Élever vos enfants, ça veut dire donner-leur comme si on élève un plant de tomates, on lui donne du soleil, de la pluie, de l'engrais, et on le protège contre les escargots. C'est ça, élever. Bon, c'est un premier échelon, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut les corriger. Corriger, c'est l'appel à la volonté, au caractère. Voilà. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la correction l'en délivrera. Donc ça veut dire un enfant, vous l'avez remarqué, il n'est pas parfait, et donc il a des penchants, il a une volonté qu'il faut briser, et il a un caractère qu'il faut façonner, il faut qu'il apprenne beaucoup de choses. Il faut qu'il apprenne à obéir. Alors obéir, on dira oui, mais c'est péjoratif. Non, obéir, c'est être capable de se mettre à distance par rapport à ses propres impulsions. Voilà. Un enfant qui n'agit que par ses impulsions sera difficilement socialisable, sera malheureux et rendra beaucoup de gens malheureux autour de lui. Donc, corriger l'enfant, c'est lui apprendre un autre chemin que le chemin de son, de sa toute puissance et de sa pleine volonté qui doit être assouvie à chaque instant. Élevez vos enfants, corrigez-les et instruisez-les. On comprend que l'instruction nécessite les deux premiers échelons. Donc, ça veut dire qu'un enfant qui n'a pas tout ce dont il a besoin pour vivre normalement, un enfant qui n'est pas corrigé dans son comportement et sa volonté et son caractère ne peut pas être instruit dans de bonnes conditions. Donc, ça revient encore aux parents de faire cela, et puis à l'école. Donc, vous voyez le travail des instituteurs et des institutrices, des professeurs de collège, quand l'enfant n'a pas eu ce dont il avait besoin en termes de soins et d'affection et de fidélité, quand il n'a pas été corrigé dans son caractère et dans sa volonté, il n'est pas en état d'être instruit. Et moi, j'ai 3 de mes enfants qui sont enseignants, ils me disent la moitié des enfants ne sont pas en état d'être instruits. Ils sont à l'école, mais on ne peut pas les instruire. Ils ne sont pas disponibles pour ça, parce qu'il y a des carences sur les deux premiers échelons. Voilà. Et pourquoi Paul dit « Père, élevez vos enfants en les corrigeant et en les instruisant ». Papa ne va pas faire ça tout seul, mais il est le garant. Il doit veiller à ce que les conditions soient remplies pour que les deux parents le fassent. Mais le garant, c'est le papa. Je ne crois pas qu'on puisse dire autrement. Et alors, ce n'est pas parce que les papas souvent ne le font pas qu'une nouvelle norme doive entrer en ligne de compte et être adoptée comme étant une nouvelle norme. Voilà. Le papa est normalement le garant que ça se passe dans de bonnes conditions. Voilà. Et après, la maman va y participer autant que le papa, quelquefois plus, quelquefois moins, avec la complémentarité des dons et des disponibilités et des aptitudes. Mais le mandat est donné au papa de veiller à ce que ça puisse se faire. Je le crois comme cela.
J'ai l'impression que les parents, ils n'osent plus corriger leurs enfants. Et en fait, on se retrouve avec, justement, l'apprentissage du respect, les autorités. On ne respecte plus personne. Les parents ne mettent plus de limites, les enfants ne les respectent plus. Et après, il y a des débordements. Enfin, moi, j'ai assisté cette semaine à une scène incroyable dans un magasin. Et je voyais vraiment que les parents, ils étaient complètement démunis. Alors que s'ils avaient fait preuve un peu de fermeté et de ne pas céder dans leur fermeté, mais l'enfant, il aurait, à mon avis, compris et il se serait calmé. Mais comme il avait pris l'ascendant, l'enfant, il était aimé.
C'est ça.
C'était incroyable. Non, mais ils sont démunis. Moi, je pense que... Mais c'est ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une vraie carence éducative aujourd'hui.
Oui, parce je pense qu'il y a une grosse méprise sur le sens de l'amour.
Ouais.
On pense que l'amour, c'est de donner du Nutella. Mais l'amour, c'est pas ça.
Et non.
Donc il y a une méprise sur la définition la plus élémentaire des choses. Et donc un enfant...
C'est mal vu de corriger son enfant.
Même de lui dire non.
Ouais.
Même de lui dire non.
C'est pour ça voilà. Que les adultes aujourd'hui, quand on leur dit non, ils n'ont pas l'habitude et ils réagissent très fortement au non.
Tout à fait. Mais si les adultes eux-mêmes ne savent pas entendre qu'on leur dise non, les enfants, évidemment, ne l'entendront pas non plus. Hein. Ils vont être rebelles. Donc moi, je pense que dire non à un enfant, c'est le délivrer de beaucoup d'impasses et de situations difficiles. L'apôtre Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit très bien au chapitre 12 de la lettre aux Hébreux. Hein, il est vrai que toute correction est dans un premier temps un sujet de tristesse et non de joie, mais pour ceux qui ont été ainsi exercés, elle produit ensuite, voyez le « ensuite », c'est pas tout de suite, plus tard elle produit un fruit paisible de justice. Mais donc là, il faut quand même une carrure pour assumer cet inconfort de l'immédiat pour ensuite en porter de bons fruits. Merci de m'avoir corrigé, merci de m'avoir dit non. Et pour ma part, je crois même à l'utilité de la correction physique, vous voyez. Donc je le dis parce que vous ne l'entendrez pas souvent ailleurs. Je pense qu'une bonne claque, hein, pas une claque, une bonne tape sur la main, et moi je dirais oui, voilà, va éviter des centaines de disputes épuisantes et inutiles.
Moi, j'aime pas trop les claques, parce que c'est
oui, c'est le visage, je comprends.
C'est humiliant et que parfois, on ne maîtrise pas forcément sa force. Mais une tape sur les fesses, moi, je ne suis pas contre. Mais
voilà.
Par contre, je trouve que taper sur les mains ou taper sur le visage, moi, je trouve que c'est efficace. Après, il y a le ton. Et je pense que rien que le fait d'être ferme, d'aller jusqu'au bout, de ne pas céder, rien que ça, ben ça évite. Moi, j'ai pas beaucoup. Enfin, je crois que j'ai donné une fille à Lisaline, mais encore, je sais même pas si j'en ai donné une. Et pour dire, généralement, quand on a une attitude où on est ferme, on ne lâche pas. Et bien, à ce moment-là, ben
c'est acquis pour longtemps. Tout à fait, tout à fait. Mais donc, je retire le mot claque. Hein.
Ouais,
je pense pas à une claque, parce que le mot claque veut dire on agit sous une impulsion par colère. Hein. C'est pas la bonne manière. Hein. Voilà, il vaut mieux dire. Tu vois? D'accord. Donc, voilà. Attention, mais on comprend bien qu'un excès, quelquefois, produit un excès opposé qui n'est pas meilleur. Oui.
Je change un tout petit peu de sujet. Désolée.
Non,
non pas que c'est pas intéressant les claques, mais je sais juste que j'ai une petite question. J'aurais aimé avoir votre avis et votre tour d'expérience, si vous en avez une, sur la mise en place d'un culte à la maison. Est-ce que c'est quelque chose, on a parlé de l'église qui est le prolongement de la maison. Non, l'inverse. La maison qui est le prolongement de l'église. Ah non, c'est ça, l'inverse, pardon. Mais du coup, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est indispensable?
Bonne question. Alors, je dirais qu'il ne faut pas placer la barre si haut que personne ne passera. Et donc, si on imagine un culte de trois quarts d'heure tous les jours avant de partir à l'école, on part battu, vous voyez. Si on pense à un culte quotidien, on dirait ça, là, dans l'idéal, un culte quotidien, peut-être c'est trop. Et donc évitons là aussi de passer du trop à rien du tout. Et il y a une mesure qui sera adaptée à cette maison pendant cette période-là, qui conviendra pas forcément exactement à une autre maison dans une autre période, vous voyez. Donc avec mes enfants, je l'ai dit ce matin, hein, pendant quand même plusieurs années, on a lu la Bible racontée aux enfants. Le texte de cette Bible-là, spécialement, me paraît respectueux du texte biblique et bon véhicule du message, bien adapté. Moi-même, j'ai reçu beaucoup en lisant ces pages à mes enfants, vous voyez. Et donc, ça, on l'a fait pendant des années. Donc déjà, il y avait un parcours de toute la Bible. Et puis ensuite, par exemple, pendant tout un temps, on lisait une dizaine de versets du livre des Proverbes. Alors, j'ai trouvé le livre des Proverbes pour le créneau d'âge qui a suivi, mettons entre 8 et 14 ans, le livre des Proverbes était tout à fait indiqué pour aborder une foule de sujets, des fois de manière un peu énigmatique, souvent de manière quand même assez concrète, et qui permettait un dialogue avec les enfants. Voilà, donc c'était pas formel, on pouvait échanger, mais alors est-ce qu'on appelle ça un culte ou pas? C'était un moment d'écoute de la parole, tous ensemble, où les parents, ou un des deux parents, si les deux parents ne peuvent pas être là, se mettent eux-mêmes à l'écoute de cette parole. Donc le nous se juxtapose au tu. Voilà. Tu sais, quand Dieu dit ça, ça veut dire ça, mais il nous dit que c'est comme ça que nous devons marcher si nous voulons être heureux. Voilà. Alors, je pense à un pasteur qui étudie le Lévitique avec ses enfants. Au bout d'un moment, les enfants partaient en courant, quoi. Et donc, voilà, il faut pas être idéaliste. Voilà. Être idéaliste, ça peut être irritant. Voilà. Ni trop, ni trop peu. Trouver la bonne manière adaptée, je pense que c'est la bonne, c'est juste, hein. Il n'y a pas qu'une manière, il y a 50 manières.
Si on a fait,
On faisait une fête de famille à tous les cinq, hein. Et puis, alors, on faisait ça le soir. On éteignait la lumière, on allumait des bougies parce qu'on avait la lumière, hein, normalement. Donc, on essayait d'avoir à tous les étages.
C'est autant des dinosaures.
Voilà, on a changé d'ambiance, quoi. Changé l'ambiance habituelle. Et puis, faire des crêpes, des choses, voilà, un petit repas sympa. Et puis, en même temps, après, on essayait de, en famille, de mimer, par exemple, une parabole, un truc de la Bible, voilà. Une histoire de la Bible qu'on pouvait mimer en famille. Et pour essayer de les marquer aussi et de les faire participer. Et c'était un peu rigolo. Et puis, voilà. Et je sais pas, j'aurais pas demandé, ils ont 30 machins. J'ai pas demandé si ça les a marqués. On faisait pas souvent parce que c'est quand même un peu d'organisation. Mais on avait trouvé ça de faire une espèce de fête autour d'un moment avec, on change de l'habitude, quoi. Voilà. Essayer de sortir du cadre habituel. Voilà. Ça, c'est ce que nous, on a fait. Ma foi, je sais pas si c'est.
Je comprends.
À perpétuer pour d'autres. Mmh. Mais on avait, les enfants, je crois qu'ils étaient contents.
On préfère toute une collection de manières de faire différentes, hein. Quand nos enfants étaient petits, c'est mon épouse me disait, Charlie, tu vas lire la Bible aux enfants. Et j'avoue que souvent, à 8h30 du soir, j'étais fatigué. Je disais, bon, je vais y aller, mais, eh bien, je me suis régalé chaque fois quand même. Hein. Chaque fois, je me suis régalé. Et si mes enfants étaient là en ce moment, hein, ils vous diraient l'importance que ça a joué dans leur vie. Pour le regard sur leurs parents et pour le regard sur le monde et sur Dieu et sur eux-mêmes. Ça valait tous les catéchismes du monde, ça c'est sûr. Hein. Je pense aussi, juste en prolongement de la question du culte, le chant ou les prières avant le repas. Eh bien, comment le dire ? Il y a une manière de chanter avant le repas qui est désuète et qui ne donne pas une impression de sérieux. Alors, je ne parle pas des petits oiseaux, etc. Hein, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois des foyers où on chante avant le repas une petite chansonnette pour faire plaisir aux enfants. Voilà. Et j'ai l'impression que ça n'inculque pas à l'enfant la dimension de la crainte de Dieu, de la reconnaissance et du sérieux que normalement une prière ou un chant devrait avoir. Alors, je ne suis pas contre la dimension de la joie et de la fête, mais cette joie et cette fête ne devraient pas rendre ces choses superficielles. Sinon, c'est un mauvais témoignage. Enfin, c'est tout à fait personnel, hein, ce que je dis là. Sinon, l'enfant, à 16 ans, il dit « passons à autre chose ». Voilà.
Pour donner un petit encouragement à ceux qui élèvent des enfants actuellement, et pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, des fois, au bout de 30 ans, votre enfant viendra vous dire « Ah, ben je te remercie de m'avoir donné un cadre. » Mais c'est peut-être 30 ans après.
Ça peut arriver, bien sûr.
C'est du vécu, hein, c'est tout.
Je comprends bien. Et alors là, voilà, juste aussi rappeler que les grands-parents ont un rôle important, pas forcément très facile, parce qu'ils ne sont plus les parents, mais ils ont un recul et en même temps un attachement qui les place en position de recevoir des confidences, donner des conseils, d'être à l'écoute au moment qui se présentera, qu'on ne décide pas forcément soi-même. Mais les grands-parents ont une vocation. Combien de jeunes soldats m'ont dit, quand j'étais au aumônier militaire, « Mes parents ne sont pas croyants, mais j'ai une grand-mère qui croit en Dieu. » Voilà. Donc ils avaient 20 ans, ils étaient en Allemagne, ils me sortaient ça, quoi. Voilà. « Mes parents ne sont pas croyants, mais j'ai une grand-mère qui croit en Dieu. » Et donc cette grand-mère, elle ne s'imaginait pas peut-être que son petit-enfant était en train de dire ça maintenant, quoi. Voilà. Bon, merci pour votre participation.